Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Ouais, ça va ? Alors effectivement, ce matin, on va continuer dans notre thème, les enseignements autour du royaume. Et il y aura un peu deux parties dans ce message-là. Une première partie un petit peu, je ne suis pas sûr d'employer le bon mot, mais un peu théologique, d'accord, où on va se pencher un peu sur des aspects de la Bible importants, et puis une partie plus pratique derrière. Alors mon défi, ça va être de vous tenir éveillé la première partie. La seconde, en principe, elle est plus facile, il y aura un peu de témoignage, mais sur la première, il va falloir que vous soyez attentifs. Hein. Donc accrochez-vous jusque-là, ok ? Alors, pour démarrer, je vous propose ensemble de découvrir un schéma. Quand on parle de schéma, ça fait toujours un petit peu peur, parce que j'ai pu le voir dans un livre d'Amar Djabala autour des paraboles. Alors c'est un bouquin, si ça vous intéresse, il se nomme « Visage de Dieu et image du royaume ». Et alors ce schéma, il est appelé « Perspective eschatologique du Nouveau Testament ». Alors ne vous inquiétez pas, eschatologie, ce n'est pas un gros mot. L'eschatologie, c'est l'étude des événements à venir. Ça vient d'un mot grec qui signifie « dernier ». Alors c'est vrai que si un jour on m'avait dit que je traduirais du grec à mon message, je ne l'aurais pas cru. Je crois que Paul, il a de l'influence sur nous. J'ai l'impression de me polifier un peu de temps en temps. Ce n'est pas trop mon truc, ça. Mais tout simplement, l'eschatologie, c'est l'étude des choses dernières. Mais par contre, pour parler de ça, il faut revenir au point de départ et c'est ce que ce schéma va un petit peu nous apprendre. Donc on va repartir du point de départ. Nous avons donc l'Ancien Testament et on a peut appeler ce temps le temps de la préparation. C'est le temps de l'alliance avec le peuple d'Israël, c'est le temps des promesses, c'est le temps de l'attente d'un venu d'un Messie. Pendant ce temps, Dieu s'engage avec son peuple. Il n'hésite pas à démontrer sa puissance à travers des événements bien spécifiques que vous connaissez, que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament. La sortie d'Égypte, ça peut en faire partie. Pendant ce temps, et Alissa l'a rappelé tout à l'heure, Dieu s'appuie sur des prophètes, sur des juges qui vont parler en son nom et on a besoin de sacrifices pour s'approcher de lui. Et puis, malgré les actions, malgré les démonstrations de la puissance de Dieu assez impressionnantes, l'Ancien Testament il met aussi en évidence la faiblesse, souvent, du peuple d'Israël, qui oublie vite, qui tombe dans le péché, qui est souvent corrompu par d'autres nations, qui tombe dans l'idolâtrie. Mais Dieu revient régulièrement. Il les reprend, mais il est fidèle. Il est fidèle parce qu'il a donné des alliances. Donc on a donc à gauche de ce schéma ce temps qu'on va appeler de la préparation. La deuxième grande étape, je vais l'appeler le temps présent, et elle va démarrer avec l'incarnation de Jésus, sa mort, sa résurrection. Voilà, ce temps il est lancé avec l'ascension de Jésus, on l'a fêté il y a 10 jours ça, et bien sûr le ministère du Saint-Esprit qui démarre à la Pentecôte, quand les premiers disciples vont le recevoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette étape par rapport à la précédente ? Eh bien, finalement, les prophéties de l'Ancien Testament, elles sont réalisées au travers de l'envoi de Jésus, vous le voyez en bas, et de son sacrifice qui nous permet d'accéder au Père. Et puis, au-delà d'un jour de congé qui est bien appréciable, demain, le chrétien, il va bénéficier de ce qu'on peut lire dans Acte 1. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Avec la résurrection de Jésus, c'est comme s'il y avait, on pourrait dire, une inauguration, du règne de Dieu. Alors c'est vrai que quand j'ai écrit ça, j'ai trouvé ça un peu délicat de comprendre, à comprendre parce que c'est un peu comme s'il y avait un chevauchement de deux temps. Et j'ai écouté le message de Vincent sur les noces il y a 15 jours, pour ceux qui étaient là. Il a utilisé une expression que je vais reprendre, c'est le temps du déjà. Déjà le royaume est parmi nous, et pas encore. ça a été un peu dit par la prise de parole d'André, mais quand on voit le monde dans lequel on vit, le péché est partout autour de nous. Les valeurs que la Bible enseigne, ils se perdent. Le nom de Jésus, il a dit, est raillé. Parfois, je me dis, mais ce monde, il part en vrille complet. J'ai vu quelques vidéos par-ci, par-là, de l'Eurovision. Ça devrait être un spectacle télévisé plutôt sympa. Mais on le sent, on s'en rend compte. Ça tourne pas rond. C'est noir, c'est malsain. C'est bizarre, c'est étonnant. Alors c'est vrai qu'il peut être difficile de dire, en tout cas ça a été mon cas au début, que le royaume de Dieu a été inauguré et qu'il est déjà présent aujourd'hui, quand on fait aussi ces constats-là. Dieu aurait-il perdu la main ? Réponse ? Absolument pas, même moi j'ai marqué. Il vous suffit de lire Romains 1 pour comprendre ce qu'il est en train de se passer. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder, de mal. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Quand je lis ça, je me dis on est en plein dedans. On est en plein dedans. Ce n'est pas donc que Dieu n'est pas là. Mais comme écrit, parce qu'ils ont délaissé Dieu, eh bien Dieu les a laissés dans l'impureté de leurs désirs. C'est important d'avoir ça en tête. Notamment face aux arguments des non-croyants. Vous le savez, l'argument classique qu'on entend à chaque fois. S'il y avait un Dieu, ben, il n'y aurait pas autant de problèmes. On l'entend tout le temps. Attention, vous n'avez pas jugé bon de connaître Dieu. Et maintenant, vous vous étonnez des problèmes que l'homme lui-même a créés. Mais c'est vrai que malgré tout, quand je vois tout ça, ces dérives, il m'arrive parfois de demander au Seigneur, « Mais Seigneur, quand est-ce que ton royaume, quand est-ce que ton royaume vient avec puissance, là ?» Et c'est les pharisiens qui ont fait cette demande aussi, dans Luc 17, verset 20. Les pharisiens, je vous le lis, hein, je gagne du temps. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume ?» Luc 17, verset 20. Et si vous lisez le contexte de cette demande, « Quand est-ce que ton royaume, le royaume de Dieu vient ?» Eh bien, c'est juste au moment où Jésus vient de purifier 10 lépreux, que les pharisiens vont poser cette question. Ben, cette guérison miraculeuse, c'est une des manifestations de la venue du règne de Dieu sur la terre. Et d'ailleurs, quelle va être la réponse de Jésus à cette question-là ? Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « il est ici ou il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et Jésus il va donner ce type de réponse à plusieurs reprises dans les évangiles. Dans Marc 1, verset 15, il dit « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. » Vous connaissez ça. Changez d'attitude, croyez à la bonne nouvelle. Alors, il n'y a pas que les pharisiens qui se posaient cette question. Pendant le ministère de Jésus, même les disciples se demandaient quand il établirait son royaume. Et ils se demandaient même quel sera le rôle de ses disciples dans ce royaume-là. C'est vrai que les disciples, ils attendaient quoi ? Ben, vous le savez, un Messie conquérant qui libérerait Israël, qui viendrait virer les Romains du pays. Mais le royaume, ce n'est pas un royaume terrestre, avec des frontières géographiques bien délimitées, ce n'est pas ça. Le royaume dont parle Jésus, c'est un royaume spirituel qui est établi dans le cœur et dans la vie des croyants. La présence et la puissance de Dieu habitent dans les croyants par la personne du Saint-Esprit. Justement, Saint-Esprit qui a été envoyé le jour de la Pentecôte et que nous célébrons aujourd'hui. avec la venue de Jésus et de son sacrifice, où tout est accompli. N'oubliez pas ça, tout est accompli. Le royaume de Dieu a donc bien été inauguré. Et je peux le dire ce matin. Depuis qu'il est retourné au ciel, ce royaume, il perdure dans nos cœurs, dans le cœur de tous les croyants, par la présence du Saint-Esprit. Mais il sera pleinement instauré quand Jésus reviendra pour juger les hommes, pour éliminer le mal du monde. Alors on est dans l'attente de ce retour et notre rôle, Alissa l'a dit, c'est d'annoncer le royaume de Dieu partout dans le monde. Et c'est le livre des Actes, au tout démarrage, au tout début, qui nous rapporte les débuts de l'accomplissement de cette mission. On a vu les deux étapes. Bien entendu, ça ne s'arrête pas là. Il y en a une troisième derrière. C'est la dernière phase du schéma. Là, il n'y a plus de chevauchement. Il n'y a plus de pas encore. Le règne sera parfait. La paix, la justice seront présents pour l'éternité. La Bible nous parle des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Et cette double perspective-là, elle est essentielle pour moi aujourd'hui. Parce que je peux dire, j'ai la conviction que Jésus a déjà accompli l'œuvre du salut, qu'il règne déjà dès aujourd'hui dans nos cœurs. Mais j'ai aussi la ferme espérance qu'il revient bientôt. Et forcément, si cette réalité, elle est acceptée du chrétien, elle va influencer ses pensées. Elle va influencer ses actions. Et c'est là où je rentre dans la seconde phase. Je regarde si vous avez suivi, c'est bon, vous êtes avec moi. Ok, quelque chose peut-être de plus pratique. Parce que j'aimerais faire un focus dans le temps présent, parce qu'il nous concerne forcément, directement, et notamment un focus plus particulier sur la façon dont il faut attendre le retour de Jésus. C'est intéressant, ça. Nous ignorons quand Jésus reviendra. Je ne sais pas combien de... Il aurait fallu que j'agrandisse le truc rouge, là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Peut-être demain, peut-être plusieurs siècles. Alors, ce focus, je vous propose de le faire à travers un passage dans Matthieu qui s'étend sur le thème de l'attitude du chrétien vis-à-vis du retour de Jésus-Christ. Il y a tout un passage, il y a trois chapitres qui parlent de ça. Et donc, tout démarre à nouveau, avant de les lire, tout démarre à nouveau de la question des disciples, qui ressemble à celle qui a été posée par les pharisiens dont j'ai parlé tout à l'heure. Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Et en réponse à cette question, Jésus va dresser une sorte de carte de l'avenir. C'est très intéressant. On n'a pas le temps de le lire ce matin, mais vous allez voir, si vous lisez à partir du chapitre 24, une espèce de carte qui est dressée par Jésus. Ce sont des versets que vous avez entendus, où on dit « on entendra parler de guerre », d'une nation qui se dressera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il annonce aussi la venue de faux prophètes. Il annonce la venue de Jésus sur les nuées, avec puissance et gloire. Et donc, après cette description-là, Jésus va enseigner à partir de plusieurs paraboles sur le thème de son retour. Et c'est là que je vais commencer. Et juste après ça, juste après les paraboles, va commencer le récit de la Passion. Jésus arrêté. Et c'est ce qui va l'amener à la croix. Alors, il était important qu'il enseigne les disciples sur cet avenir, sur cette perspective, parce que juste après, il allait être arrêté. Voilà, maintenant que nous avons le contexte général, lisons, prenez vos Bibles pour ceux qui en ont, Matthieu 24, et on va lire du verset 42 à Matthieu 25, verset 13. Je vais vous l'afficher, j'espère que c'est assez grand. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez peut-être pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié ! Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez vous, chez ceux qui en vendent et achetez-en vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Puis plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces passages? Le premier... Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est assez clair. On ne sait pas quand Jésus reviendra. Le maître revient quand le serviteur ne s'y attend pas. Les jeunes filles ne savent pas quand l'époux revient. Et si vous lisez au verset le chapitre 36, qui est un petit peu au-dessus, je ne suis pas remonté là-dedans parce que déjà le passage était long, mais il est indiqué « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni le Fils. Mon Père seul les connaît. » Il y a plusieurs passages de la Bible qui indiquent aussi que nous ne pouvons pas connaître le moment où Christ reviendra. Rien que dans ce passage que je vous ai lu, on voit, le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Tenez-vous en éveil car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que le retour de Jésus a toujours suscité beaucoup de fascination parmi les hommes. Beaucoup de fascination, beaucoup de prédictions, beaucoup de spéculations, plus ou moins farfelues des fois, voire des fois même des fausses convictions qui ont pu même entraîner des divisions. Je ne crois pas que le Seigneur nous encourage dans les spéculations de nature prophétique. La Bible est extrêmement claire là-dessus et sur ce sujet. Et si quelqu'un prétend savoir précisément quand Jésus reviendra, eh bien, à la vue de ces versets, moi, je considère que c'est une erreur. Seul le Père le sait. C'est le premier point. Mais surtout, ce qui est important, derrière, c'est qu'il nous est demandé de ne pas calculer ce temps de retour, mais par contre, on ne calcule pas, mais par contre, on s'y prépare. S'y préparer, c'est être actif dans le service. On le voit dans ce qu'on vient de lire. S'y préparer, c'est de pouvoir dire « Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. » Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Alors, je réfléchissais ce matin et j'ai tapé sous Google. Si vous restez 24 heures à vivre, point d'interrogation, qu'est-ce que vous feriez ? Alors j'ai trouvé le micro-trottoir que je vais vous présenter là, qui est complètement surprenant. Alors il dure plus de 6 minutes, c'est pas du tout chrétien, donc vous pouvez imaginer le type de réponse que j'ai pu entendre. Alors moi j'ai fait une sélection d'une minute au milieu pour choquer personne. Mais quoi qu'il en soit, il y a un truc qui est étonnant, je vous laisse le découvrir, j'espère que ça va fonctionner avec le son. Non ? Ah oui, le câble, bien sûr. Pourtant, il m'avait tout préparé, Cédric. Tu ne me l'avais pas noté sur le papier de mettre le câble dans l'ordi. Il m'a dit, appuie sur HDMI, ne tombe pas en montant les escaliers, mais il m'avait pas dit mets le câble, donc. On va retenter. Ça vous réveille comme ça, c'est parfait.
Un truc, tu vois, inoubliable. Après, je sais pas, j'irai dans les plus grands restaurants, je laisserai une addition de malade. Et puis...
C'est que 24 heures, hein, c'est pas non plus 7 jours. Hein.
Et toi ?
Je sais pas du tout.
Ah ouais ?
Ah non, pas
tu vas pas grignoter ?
Je sais pas.
Trop manger, ça se voit.
Peut-être, peut-être manger un petit truc, mais je sais pas, passer la journée dehors, je sais pas trop.
Alors j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous feriez si il ne vous restait que 24 heures à vivre ?
Je profiterai là, tout simplement comme ça. Là.
Voilà, voilà, on se balade, tranquille.
24 heures à vie, que feriez-vous ?
Je bronzerais.
Ah ouais ?
Et j'irais à la mer.
Ah ouais, vous aimez bien vous bronzer.
J'en ai plein les dents.
Moi, je crois, peut-être, tu sais même pas nager.
Si, bien sûr.
Ah ouais ? Est-ce qu'on peut voir ?
J'étais
voir là ? Ouais. Il n'y a pas d'eau ?
Ouais.
Allez, vas-y, vas-y, ça sera marrant.
24 heures, c'est hyper trop court pour prévoir.
Ah là, on vous dit 24 heures.
T'essaies d'aller faire un saut en parachute pas très loin de Paris, tu...
Est-ce qu'ils ont tous avec le parachute ?
C'est très bien, le parachute.
Et vous ?
Surprenant. Je trouve ça surprenant. En gros, la réponse qu'il donne, c'est profitons jusqu'au dernier moment, même si ça n'a clairement pas de sens. Ils vont mourir dans 24 heures, ça n'a pas de sens de se faire un souvenir inoubliable, je suis désolé. Alors, on n'aurait pas pu leur demander, hein, si Jésus revenait dans 24 heures, qu'est-ce que tu ferais ? Parce qu'ils sont non-croyants, donc ça n'aurait pas de sens pour eux. Mais là, on leur annonce leur mort et les réponses, elles sont dingues. Il y en a qui disent, je ne les ai pas mis, je ferai une fête de folie, etc. Enfin, ça va vraiment dans tous les sens. Et moi, je trouve que ces réponses, elles me font penser au verset 37 du même passage, que je n'ai pas lu aussi, mais je vous encourage à lire tout ce qu'il y a devant, où il y a une comparaison qui est faite avec le temps de Noé, hein, qui est faite où on pouvait lire que les gens y menaient des vies mauvaises sans se soucier de Dieu, et le déluge est arrivé soudainement. Ici, même quand on les met face à la mort, ben, leur préoccupation, c'est de faire un saut en parachute ou de manger un bon resto gratos. C'est difficilement compréhensible. Parce que honnêtement, c'est vrai, tout le monde se prépare à un événement important. Vous ne pensez pas à votre mariage la veille ? Moi non, en tout cas, ça nous a mis un an à préparer. On y pense, on y réfléchit, on s'en préoccupe. Alors je vais vous raconter une petite histoire pour vous détendre aussi. À la sortie de mes études, je me suis mis à chercher du travail. J'avais eu quelques petits jobs, moniteur de colo, j'avais travaillé à Carrefour, au rayon filles, des jouets, là, je me souviens, ça m'avait marqué cette histoire. Les poupées et tout ça, je connaissais bien. Et puis j'ai été contacté à la Banque Populaire pour un entretien d'embauche, tout jeune sorti. Et clairement, pour un jeune homme, ça, c'est un événement important. Tu sais que si tu es embauché dans une grande boîte comme ça, il y a des chances que tu y restes pour un petit moment et que tu puisses avoir aussi des opportunités d'évoluer, de changer de métier. Et donc, tu sais qu'il n'y en aura pas des centaines des opportunités comme celle-là. Alors forcément, tu ne vas pas les mains dans les poches. Au contraire, tu le prépares, je fais des recherches sur la banque. Il y avait Internet qui existait, hein, déjà, hein, même si ça commence à faire... Hein. Je regarde les slogans, I'm free, tout ça là, les trucs. Je regarde son histoire, ses objectifs. Je vais acheter des habits neufs, ma cravate. Et surtout, je réfléchis aux questions qui peuvent m'être posées. Et j'essaye d'anticiper les réponses. Vous savez, il y a des grands classiques dans les entretiens. Citez-moi une qualité et un défaut que vous avez. Alors bien sûr, j'ai réfléchi pour ne pas tomber dans le piège du défaut. On pense tous à répondre « je suis perfectionniste ». Ça passe toujours très bien, ça, « je suis perfectionniste ». En tout cas, mieux que feignant ou asocial. Alors, je m'entraîne à donner mon parcours scolaire, à vendre mon expérience de façon fluide, même si elle était réduite à pas grand-chose. Je m'entraîne à même à vendre un stylo. Il paraît qu'il y a des DRH qui demandent ça, vends-moi ce stylo. Voilà. Je me sentais prêt. Alors bien sûr, il y avait le stress, mais je me sentais prêt. Et alors le DRH vient me chercher dans la salle d'attente. Il m'ouvre la porte pour aller dans son bureau et pour commencer l'entretien. Mais il y avait une chose que je n'avais pas répétée. C'était m'asseoir sur la bonne chaise. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas ce qui s'est passé dans ma tête. De mémoire, il y avait peut-être un écran qui était mal tourné ou le téléphone. Je me suis assis sur sa chaise. Du mauvais côté du bureau. Alors il m'a fait gentiment remarquer que j'avais pris sa place. Je devais être tellement stressé par l'enjeu du rendez-vous que j'ai perdu un peu mes moyens. Bon, après, le reste était suffisamment bien préparé pour que je sois recruté. Donc l'histoire termine bien. Et c'est surtout pour vous montrer que voilà, on se prépare à des événements importants. Voilà, pour vous dire que quand on a devant soi un événement majeur, un événement important, eh bien, il nous saisit, il occupe notre esprit et ça doit nous pousser à nous y préparer. Qu'y a-t-il de plus important que la rencontre avec notre Seigneur ? Peut-être que c'est une bonne question à se poser ce matin et de savoir comment personnellement, comment nous préparons notre rencontre avec le Seigneur. Et même si le Seigneur ne revenait pas de notre vivant, l'enseignement de ce passage, il est néanmoins applicable. Hein, car le moment de la mort, pour chacun d'entre nous, peut intervenir n'importe quand. Nous ne pouvons ni le prévoir, ni l'éviter. Et donc, cette rencontre, elle est obligatoire. Ce sera une rencontre du serviteur avec son Seigneur. Et il nous faut être prêts pour rencontrer notre Seigneur ici. Dans la même idée, la parabole des 10 jeunes filles nous avertit aussi de ne pas nous endormir sur nos lauriers. Et la communauté croyante doit demeurer vigilante, sinon elle court le risque d'être prise par surprise. On nous dit que lorsque l'époux est revenu, il y a une partie du cortège qui a été pris de court parce qu'ils n'avaient pas préparé, ils n'avaient pas pris l'huile. Cela nous exhorte à nous préparer parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Il nous revient de prendre les mesures qu'il faut pour vivre selon les normes éthiques de l'Évangile. Il y en a beaucoup, je ne vais pas les passer aujourd'hui. Ouvrez votre Bible et regardez les normes qui nous sont données, les normes éthiques de l'Évangile. Dans l'attente du retour de notre Seigneur, il ne faut pas être irresponsable comme l'ont été les 5 jeunes filles. Il nous faut réfléchir sur notre comportement. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Il nous faut réfléchir sur nos actions concrètes. Il nous faut réfléchir sur le fruit que je porte. Est-ce que je porte du fruit dans le quotidien ? Qu'en est-il de notre préparation, de notre prévoyance à un moment aussi décisif que celui que nous vivons ? Je ne l'ai pas noté, mais ça me vient à l'esprit. En ce moment, à la banque, on ne fait que parler de prévoyance, d'assurance. Les gens, ils ont envie de s'assurer, ils veulent couvrir tout ce qui peut l'être. Et des fois, ils pensent, si la voiture a un accident, mais ils ne pensent pas à ce qui va se passer quand ils vont mourir. Donc on a une ouverture là. Se préparer, c'est quoi aussi ? C'est attendre ardemment le retour du Christ. Attendons-nous vraiment avec impatience le retour du Christ ? C'est une bonne question. Alors je vais être honnête. Je me souviens, moi, quand j'étais enfant, le retour de Jésus, il me faisait même peur. Hein. Je ne sais pas si vous partagez, moi, je me souviens que je disais, Seigneur, attends, je trouve une femme, j'ai des enfants, et puis après, tu reviens. On avait ce genre de discours. Et puis, voilà, c'est bon. Et puis, plus le temps passe, et peut-être que plus on aspire au retour de Jésus-Christ. Ce qui est certain, c'est que plus les chrétiens sont absorbés par la recherche du plaisir terrestre ou par la préoccupation de ces mondes, et forcément, moins l'aspiration au retour du Christ elle est présente. Et ce passage, il nous indique qu'il est essentiel que le croyant se conduise durant sa vie, chaque jour de sa vie, avec la pensée du retour de Jésus, comme si le Seigneur allait revenir. Je n'ai pas du tout passé les slides, vous les voyez. Il y a un dernier point que vous avez dû aussi identifier dans ces passages et ces paraboles, c'est qu'elle nous appelle à la vigilance. Pas seulement se préparer, mais être vigilant. Restez vigilant, puisque vous ignorez à quel moment le Seigneur viendra. À la fin du passage encore, on lit. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alors il ne s'agit pas simplement de préparation, mais le terme vigilance va plus loin, et il peut être particulièrement important aujourd'hui pour le christianisme occidental, un peu contemporain. Je vous pose cette question, dans quel état spirituel le Seigneur trouverait son Église s'il revenait aujourd'hui ? Dans quel état je serais moi-même ? Si je vais plus loin, l'Église n'est-elle pas, et ne suis-je pas, d'abord moi, ne suis-je pas trop souvent préoccupé par plusieurs choses autres que les intérêts de mon maître ? Ne suis-je pas trop souvent préoccupé par plusieurs choses autres que les intérêts de mon maître ? Cette question, c'est un état des lieux personnel, bien sûr, que chacun d'entre nous pouvons faire. Et là aussi, j'aimerais vous donner un petit témoignage qui m'est venu immédiatement quand je pensais à ça. C'était à cette question, ne suis-je pas trop souvent préoccupé par autre chose que les intérêts de mon maître ? Et est-ce que je peux être considéré comme un serviteur fidèle ? Ce témoignage, c'est que ces derniers temps, il m'arrive des trucs pas cool. Vraiment pas cool à gérer. Vous savez, il y a des... Il y a des moments où la charge mentale, elle est forte, quoi. C'est compliqué. Alors, ça a commencé avec un dégât des eaux par un petit trou de la toiture lors des dernières tempêtes. Là, c'était en début d'année. Alors, il y a eu... c'est jamais une partie de plaisir, hein, vous le savez. Experts, assurances, artisans. On vit avec des taches au plafond parce qu'il faut laisser sécher, des murs abîmés. Et finalement, après des semaines d'attente, le salon a été repeint. Justement par Greg et Jeannette, ils sont là, ils sont venus ce matin, je leur fais des petits coucous. Voilà, ils ont été super. Parfait. Enfin, après des mois, on a un beau salon. Figurez-vous que dimanche dernier, nous avons eu une fuite par les tuyaux encastrés. Plusieurs murs qui venaient d'être refaits sont tout abîmés, cloqués. On les a fait revenir hier. 4 jours sans eau. Le temps d'avoir un plombier en capacité de trouver la fuite. Et alors, il y a le premier plombier qui a été envoyé par l'assurance, il est resté 10 minutes chez nous, et il est reparti indiquant que c'était trop compliqué pour lui. C'est vrai, hein ? Pendant la soirée de discussion, mercredi soir, à laquelle nous comptions participer avec Alissa, on avait le plombier à la maison. Il est resté jusqu'à 22h pour nous trouver une solution. 4 jours sans eau, c'est compliqué, sauf pour les enfants. Eux, l'absence de douche, ça semblait pas du tout les gêner, au contraire. Tout est à recommencer. Experts, assurances, artisans, et tout ce qui va avec, pour remettre au propre. Pour couronner le tout, je suis rentré tout seul, comme un grand, dans ma clôture, avec ma voiture, il y a 3 semaines. Tout l'avant droit, il est complètement explosé. Experts, assurance, garagiste. Entre ces dates, James nous fait pas mal de frayeurs avec des grosses crises d'asthme qui ne partaient pas. Alissa est tombée malade. Une de mes filles a volé dans mon porte-monnaie. Des tracas, des préoccupations. Et un message et une présidence à préparer. Alors il ne s'agit que de problèmes matériels ou des petits problèmes de santé temporaires. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont certainement des choses bien plus grosses à gérer, beaucoup plus difficiles. Mais je peux vous dire que déjà, ces préoccupations, elles prenaient toute la place de mon cerveau. C'était comme cette charge mentale qui m'empêchait de penser à autre chose. Surtout pas à préparer ce matin, je peux vous le dire que je m'y suis pris un peu au dernier moment, ou à consacrer du temps au Seigneur. Ma vigilance, elle était au point mort. Alors, mercredi matin, je marmonnais dans ma voiture, pas gai, forcément, vous vous en doutez, en allant au travail. Et puis, j'entends une alerte sur mon téléphone. Et c'est David Galland, il ne sait pas que je vais en parler, mais qui partage au groupe un morceau de louange. Ce morceau de louange, il dit « Quand tout va mal, ô mon âme, pourquoi t'as battu ? Au milieu de la tempête, il est à moi. Moi, je le louerai encore. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Je vais vous le faire partager, un tout petit extrait de ce morceau. Si ça marche, j'espère. Je vous laisse.
Mal, oh mon âme, pourquoi t'abats-tu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore.
Des paroles. Merci David. Ces paroles, elles tournent en boucle. Il dure combien ? 8 minutes le morceau ? Il n'y a que ça avec cette chorale. Si vous saviez le bien que ça m'a fait, c'est pas la musique, c'est bien la musique, mais c'est le changement de perspective. Alors les larmes, elles me sont venues, elles me reviennent un peu là. Ça montre la petitesse des fois des tracas. Mon âme, elle s'est ouverte à la présence de l'esprit et j'ai vraiment senti que je sortais du brouillard. Et les préoccupations, elles étaient chassées. Et en plus de cette chanson qui tombait à pic, j'ai reçu plusieurs messages de frères m'indiquant qu'ils priaient pour moi. Hein. Pardon. Voilà, qui prenait des nouvelles. Alors Seigneur, pardon, aide-nous par ton esprit à chasser ce qui nous sépare de toi. Toi, tu nous proposes d'enlever les fardeaux. Et je ne pense pas que je suis venu au Seigneur, malgré ces embrouilles qui passaient les unes après les autres. Alors pardon Seigneur, un des moyens d'être vigilant, c'est de se poser, de faire un point sur son état spirituel. Quelles sont mes aspirations? Quelles sont mes préoccupations du moment? Est-ce qu'elles honorent Dieu? Est-ce qu'elles font de moi un serviteur fidèle? Est-ce que j'ai demandé l'aide du Saint-Esprit quand ça n'allait pas? Si je devais répondre honnêtement à cette question, j'aurais dit non pendant ces périodes de tracas. La vigilance, ce n'est pas uniquement de faire cette introspective qui est importante, mais il y a aussi une notion d'action que l'on sent bien dans ces passages. Il ne suffit pas juste de se recroqueviller sur soi, de penser, c'est déjà une bonne chose, c'est le premier pas, mais après il y a l'action. La vigilance, ça signifie d'être actif pour la cause du règne, pour la cause du royaume. Et ça implique notre pleine implication dans les affaires de Dieu, notre implication dans les affaires de Dieu pendant qu'on est là. La vigilance ne signifie pas la paresse, ni le retrait du monde. Au contraire, veiller, être vigilant, ça signifie d'être dans un service actif, responsable, persévérant, mais aussi redevable et prêt à rendre compte au Seigneur. Et Jésus veut démontrer par ses paraboles que la seule manière d'attendre intelligemment son retour, c'est d'être toujours en service. Alors ce passage, il n'a pas pour visée de nous culpabiliser. Hein. Mais si, mon objectif sera réussi si on se pose la question de réorienter nos choix dans cette existence, en nous suggérant toutes les possibilités qui s'offrent à nous, mais aussi toutes les conséquences que nos décisions elles auront. Est-ce qu'elles sont au service du royaume? Est-ce qu'elles vont porter du fruit? Le vrai christianisme nous enseigne à mener dans le temps une vie équilibrée, juste, pleine de respect pour Dieu. Et en attendant que se réalise notre espérance, le Seigneur souhaite que nous marchions dans l'obéissance jusqu'au jour de son retour, se tenir prêt pour le retour du Christ. Ce que je vais entendre quand je rencontrerai le Seigneur, c'est très bien. Tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai plus importante. Viens partager la joie de ton maître. À ceux qui l'écoutent, Jésus demande de prendre une décision pour Dieu. L'aimer de tout leur être. Aimer leur prochain comme eux-mêmes. S'engager vis-à-vis de lui comme Seigneur. La présence de Dieu au milieu des hommes ne doit pas, elle ne peut pas laisser indifférent. Jésus nous appelle à l'attendre, non de façon passive, mais en prenant soin des siens et en accomplissant son œuvre sur la terre, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Je crois que c'est ça la meilleure manière de conserver notre vigilance et de préparer son retour. Alors je vais terminer, chers frères et sœurs. On est dans cette seconde étape. Ce temps de chevauchement, il est là, il nous tiraille. On constate l'action de Dieu dans nos vies à travers son Saint-Esprit. On constate aussi la dérive de ce monde. C'est exactement la dernière pensée qui a été donnée. Nous-mêmes, on peut avoir des difficultés face au péché, face aux préoccupations du monde qui prennent plus de place qu'il ne faudrait. Alors, mon intention ce matin, c'est de nous remobiliser, à nous tenir prêts, faire preuve de vigilance et surtout, il faut terminer là-dessus, nous rappeler l'espérance incroyable qui nous est proposée pour l'éternité, en présence de notre Sauveur. La troisième phase, l'espérance de vivre avec le Christ dans son royaume, au sein des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Un endroit sans péché, ni tristesse, ni souffrance. La dernière phrase de l'Apocalypse, elle s'achève par la promesse de Jésus. Oui, je reviens bientôt. Et notre réponse, ça doit être la même que celle que Jean fait. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen.